Chapitre 39. 17 août 1994. Beaucoup d'habitants sont encore en vacances. Pourtant, l'église de la Comelle dégueule jusqu'au parvis. Une famille entière par boîte aux lettres, ça fait du monde. Tout le quartier bas est venu dire adieu à son facteur. Et ça ne rentre pas. Comme quand le courrier déborde à force de ne pas être ramassé. On s'essuie les yeux avec des mouchoirs en tissu. Les années de larmichette que l'on versait à Pierre Beau au fond d'un verre Pyrex coulent sur les joues. Nina est arrivée entre Adrien et Étienne, un de chaque côté pour lui tenir la main. Étienne sur la gauche, Adrien sur la droite. Même le chagrin ne casse pas les habitudes. Ils ont suivi le cercueil jusque devant l'hôtel. Les familles Beaulieu et Damam, ainsi que Joséphine, derrière eux, comme un voile de tristesse trop long qui traîne. Une mariée à l'envers. La désunion, la désintégration. Nina en miettes, orpheline. Déjà qu'elle était brinque-ballante depuis l'enfance, éclopée et unijambiste. Cette fois c'est terminé, on l'a mise à terre. Le chagrin viendra plus tard. Elle est en état de sidération et de peur. Une peur vertigineuse. Pierre Beau ne connaissait pas la famille d'Amam, mais les parents d'Emmanuel sont présents, par amitié pour les Beaulieu et soutenir Nina, leur petite employée de l'été. Et puis, c'est un de leurs chauffeurs qui a renversé le facteur. Le père d'Amam, Nina le connaît. Elle le voit chaque jour au travail, comme elle voit les autres changer de comportement et de voix quand il pose une question ou traverse un couloir. Sa femme est jolie, dans ses beaux vêtements sombres, blonde à la peau claire, un air de Catherine Deneuve. Emmanuel ressemble à sa mère. Il a la même grâce, le même regard aussi. Emmanuel aurait voulu soutenir Nina, mais il vient à peine de débarquer dans sa vie quand les deux autres sont là depuis longtemps. Sans doute trop longtemps. On ne sépare pas des amis d'enfance. De la voir dans cette église, ça donne à Emmanuel des envies d'épouser Nina. C'est étrange ce qui lui passe par la tête ce matin. Il voudrait nettoyer à l'éponge le noir dont elle s'est couverte, la frotter, essuyer sa douleur. Il voudrait lui enfiler une robe blanche et lui faire dire oui pour la vie. Prendre la baguette magique de la marraine de Cendrillon et ne jamais la lui rendre. Il est amoureux. Nina n'écoute pas les mots du prêtre. Elle serre les mains d'Adrien et Étienne. Elle voudrait ne plus les lâcher. S'asseoir, se lever, s'asseoir, se lever, selon les indications de l'homme de Dieu. Elle jette des coups d'œil désespérés au Christ blanc, suspendu sur le côté, un peu à l'écart, au-dessus de quelques cierges en fin de vie, allumés la veille. À quoi pense le crucifié? À combien d'enterrements a-t-il assisté depuis qu'on l'a accroché là? Quel père peut faire subir ça à son fils? Et la Vierge Marie, savait-elle? Était-elle complice? Comment la même bande de salopards a-t-elle pu la séparer de son grand-père? Ses parents, ce n'était pas suffisant? Il leur en fallait plus? N'aurait-il pas pu lui laisser encore quelques années? Le temps qu'ils viennent l'écouter chanter à Paris et qu'elle l'emmène en vacances au bord de la mer? Parfois, elle observe le cercueil dans lequel Pierre Beau va dormir pour l'éternité. Elle n'en avait jamais vu. À 18 ans, à moins de vivre dans un pays en guerre, on n'a pas vu de mort. Une photo de Pierre est posée sur un chevalet. Un portrait que ses collègues ont retrouvé. Il était si rare qu'ils prennent la pose. Ce matin, Nina pense que ni elle, ni Étienne, ni Adrien n'ont fait leur catéchisme. Dieu, Pierre s'en fichait. « Avant, lui a-t-il dit, j'étais communiste. » Nina n'a jamais trop su ce que ça voulait dire, communiste, à part que c'était censé protéger les pauvres, partager l'argent et que ça chiait sur l'église. Plus tard, elle a appris à l'école que cela pouvait aussi ressembler à Staline ou à Mao Tse-tung et que c'était une idéologie cauchemardesque comme une autre, une puissance utopiste et irréalisable, comme la mer à boire. Même si Nina n'a pas fait son catéchisme, elle est déjà entrée dans cette église pour allumer un cierge, faire un vœu, implorer le ciel pour qu'un garçon tombe amoureux d'elle. Mon Dieu, faites qu'Alexandre sorte avec moi. Il arrive aussi à Adrien de prier. Elle l'a interrogé sur ce qu'il demandait, comme s'il passait une commande par téléphone à la redoute, et comme d'habitude, Adrien a répondu « Je te le dirai un jour ». Étienne, lui, pense que les prières, c'est un peu racketter le ciel. Il entre dans les églises comme un touriste qui observe les murs et les statues d'un air peu convaincu. Jamais il ne s'agenouillerait pour parler dans le vide. Il trouve que ce n'est pas assez moderne, que l'église appartient au siècle passé. Que dorénavant, il y a le Minitel, les ordinateurs et les jeux vidéo. Et que s'il y a un divin, il réside dans le progrès, l'avancement, les grandes découvertes, comme la fusée Ariane ou les opérations à cœur ouvert. Marie-Laure a demandé à Nina de choisir une chanson pour son grand-père. Une chanson qui passera après la messe, en hommage à ce qu'il était. Pierre Beau n'écoutait jamais de musique, juste RTL, et Joe Dassin, en douce. Les 33 tours de sa femme, le jour de l'anniversaire de sa mort. Nina l'avait surpris, penchée sur son tourne-disque, qui le reste de l'année prenait la poussière sur une commode dans sa chambre. Alors Adrien, Étienne et Nina ont écouté tout le répertoire du chanteur, les yeux écarquillés. Tellement ringard, tellement loin de ce qu'ils aiment, vénère. Pas le même monde, surtout les orchestrations. Nina a fini par choisir « Et si tu n'existais pas ?» à cause de la phrase « Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour ». Et puis, elle n'allait pas retenir aux Champs-Élysées. Jamais son grand-père n'avait mis les pieds à Paris. Il devait le faire pour la première fois en septembre prochain, pour installer Nina au Crous. Tous deux se réjouissaient de monter au dernier étage de la Tour Eiffel. Dès qu'elle sent un frémissement, un mouvement dans la foule agglutinée, Nina interroge Marie-Laure Beaulieu des yeux pour suivre ses indications. Après la chanson, des porteurs soulèvent le cercueil. Comme à l'arrivée, Nina, Adrien et Étienne le suivent jusqu'à la sortie, avant qu'on ne le hisse dans un véhicule des pompes funèbres. Le soleil cogne déjà très fort. Elle pense que pour l'enterrement de son grand-père, la météo aurait pu faire un effort, avoir un peu de décence et pleurer comme les autres, s'entendre avec le chagrin des hommes. On vient l'embrasser. Des tas de gens qu'elle ne connaît pas déposent leurs larmes et leurs morves sur ses joues. Elle répond merci, ne sent plus ses jambes. Même pour les condoléances qu'elle reçoit de tous, elle ne lâche pas les mains d'Adrien et Étienne. Quand Emmanuel s'approche d'elle, il attrape sa nuque et dépose un baiser sur ses lèvres, un baiser possessif. Quelque chose qui la révulse et l'apaise à la fois. Il est très beau. Ses yeux remplis de compassion dans les siens, il l'embrasse devant tout le monde, devant son père et sa mère. Il scelle un pacte entre eux. Quand Emmanuel embrasse Nina, elle sent les doigts nerveux d'Adrien et Étienne la serrer davantage. Maintenant, il faut monter jusqu'au cimetière en voiture, suivre le corbillard débordant de fleurs. Nina est dans l'espace des Beaulieu, à l'arrière, entre Étienne et Adrien. Derrière eux, Louise et Joséphine, presque comme s'ils partaient à Saint-Raphaël. Marie-Laure lui tend une petite bouteille d'eau. « Il faut que tu boives un peu, ma chérie. Il va faire chaud là-bas et ça va être difficile. » Heureusement que Marie-Laure est là. Depuis qu'elle est rentrée de Marseille, Nina dort dans la chambre d'Étienne. Marie-Laure s'occupe de tout, même de laver son linge. Elle consacre ses journées à organiser cet enterrement, à remplir des papiers, les assurances, la banque. Elle gère l'avenir de Nina, du moins ce qu'il en reste. Il se gare devant les grilles. Il fait si chaud qu'on se distingue à peine les uns des autres. La lumière reflétée par les tombes brûle les rétines. Ce sont des ombres qui marchent jusqu'au caveau des Beaux. Nina connaît l'emplacement. Elle a souvent accompagné son grand-père pour déposer une fleur à Odile. Odile, cet inconnu pour elle, ce grand amour pour lui, dont il ne pipait mot. Les parents de Pierre Beau y reposent, un oncle et une grand-tante par alliance, un petit frère mort à 4 ans avant la naissance de Pierre. Le prêtre bénit le cercueil. Les fleurs commencent déjà à faner. Leurs tiges se désolent sous ce soleil de plomb. Ne résisteront pas plus d'une heure. Quelle drôle d'idée de mourir au mois d'août, papy. À l'aide de cordes, le cercueil descend rejoindre les autres. Un jour, pense Nina, moi aussi j'irai là-dedans. Le prêtre lance une poignée de terre dans le trou. Nina l'imite, puis les autres. Puis les marbriers vont refermer le caveau. 3 plaques. À mon grand-père, à notre ami, à notre cher collègue. Parmi la foule transpirante qui commence à se disperser, la chaleur étant intenable, Nina ne voit pas une femme qui la regarde, qui ne la lâche pas des yeux depuis qu'elle est entrée dans le cimetière. ses mains dans celles d'Adrien et Étienne. Personne ne l'a remarqué, un peu à l'écart, comme se recueillant sur la tombe d'un autre, alors que c'est bien à l'inhumation de Pierre Beau qu'elle est venue assister.